Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Châtelaine et Québec Science. Au programme, les femmes qui nourrissent le Québec. Et quand meurt-on? Bonne écoute.
Sylvie Senet, épicière. Elle a transformé son intérêt pour la vie saine en une chaîne d'alimentation prospère. Pour ouvrir une épicerie entièrement bio à Granby en 1995, il fallait être visionnaire. Sylvie Senet l'est. À l'époque, à 39 ans, celle qui a grandi dans une ferme à Saint-Césaire en Montérégie voulait lancer une entreprise en harmonie avec son mode de vie équilibré. Aujourd'hui, la blonde aux yeux clairs et son conjoint Roland Tanguay sont à la tête de 10 épiceries. Une 11e ouvrira à Québec en septembre, qui emploie près de 1000 travailleurs. Ma passion depuis 25 ans est d'inciter les Québécois à prendre soin d'eux. Je cherche toujours des stratégies pour rendre les produits sains plus accessibles et moins chers. C'est un combat qui m'animera encore longtemps, confie la femme d'affaires à la soixantaine énergique, qui a travaillé pendant 10 ans dans le domaine bancaire avant d'ouvrir son premier commerce. Cette ferveur, jumelée à un engouement réel des Québécois pour le bio, la pousse à ouvrir des magasins de plus en plus grands. Sa première échoppe, à Granby, faisait moins de 100 mètres carrés. Aujourd'hui, ses supermarchés les plus vastes, à Laval et Saint-Bruno de Montarville, couvrent plus de 4000 mètres carrés. De véritables temples du bien-être aux allées larges, aux étagères bien ordonnées et chargées de produits qui donnent envie de bien manger et de se chouchouter. Car, en plus des fruits et légumes, des viandes et autres aliments bio, on y trouve des produits de beauté et d'hygiène 100% naturels, et tous rassemblés sous une bannière à l'aura un brin mystérieuse, Avril. Le nom d'Avril m'a plu, car il évoque le printemps et l'éveil de la nature, même si on ne l'associe pas forcément aux produits naturels. Je voulais démystifier cet univers pour rejoindre autant la clientèle bien renseignée que celle des supermarchés traditionnels, dit-elle. Une leçon tirée de cet incroyable succès? Bien s'entourer et faire ce qu'on aime avec passion, répond Sylvie en lançant un clin d'œil à Roland, son partenaire d'affaires et complice depuis toutes ces années. 9. Nathalie Joannette, maître charcutière. Pour elle, la confection des cochonailles relève à la fois de l'art, de la science et du respect des méthodes artisanales. Nathalie Joannette a la couenne dure. Tant mieux, car de la détermination, il en fallait à la Kamouraskoise d'adoption pour se lancer il y a 17 ans dans la préparation de saucissons artisanaux bio et sans nitrite. Une audace qui a payé. À preuve, les prix raflés à l'international pour « Fou du cochon », l'entreprise de celle qu'on surnomme désormais « la reine du saucisson ». Quand je vais en France, on me déroule le tapis rouge, badine la quinquagénaire à l'air espiègle, vêtue de son éternel sarrau blanc. Dans la chair de ces charcuteries lacto-fermentées, des aromates dont le nom évoque la région fouettée par l'air salin où ils sont cueillis à la main. Persil de mer sauvage, poivre des dunes. Et sur leur surface, de délicats motifs dessinés par la flore microscopique de champignons, de bactéries et de levures indigènes qui créent en bouche des saveurs aussi complexes que gourmandes. On dit que nos saucissons goûtent le Bas-Saint-Laurent. C'est parce qu'ils sont affinés ici et que la flore se trouve naturellement dans l'air. Je pourrais reproduire exactement la même recette en Abitibi et le goût serait différent, explique celle qui se considère comme une intello passionnée de la viande. Ces bâtons des dunes, grelots des battures ou grassouillets à l'ail ont beau être de la plus pure tradition française, ils ont parfois déstabilisé les carnivores québécois moins familiers avec ces méthodes de fabrication du terroir. Il m'est arrivé souvent à mes débuts que des gens recrachent le produit dans ma main, se remémore-t-elle. Le souvenir ne l'émeut même pas. C'est que, pour Nathalie Joannette, la consommation responsable est une conviction inébranlable. Dans ce monde industriel, j'ai le goût de travailler à l'ancienne. Ça ne veut pas dire de ressortir le jute et les nappes à carreaux. Ça s'exprime dans les techniques de travail, dans le respect et l'éthique. La maître charcutière a déjà relevé les manches de son sarrau pour son prochain projet d'envergure, la construction de sa propre ferme d'élevage bio. Elle évoque les 200 cochons qui vivront à l'extérieur, fertilisant des parcelles où pousseront ensuite des légumes selon un modèle d'agriculture régénérative et accessible au public. C'est une façon d'aller plus loin dans ce en quoi je crois. Tête de cochon, Nathalie Joannette? Oui, absolument, et fière de l'être. Vous écoutez « Les femmes qui nourrissent le Québec », un texte de Marie Bernier et Chloé Machillot, paru le 7 mars 2023 dans le magazine Châtelaine. 10. Tara Dantouze, cueilleuse. En suivant le programme d'études autochtones à l'Université Laurentienne, Tara Dantouze a su qu'elle voulait travailler auprès des siens. Elle dirige aujourd'hui « The Wild Basket », qui met en valeur le terroir alimentaire de la Première Nation de Témiscamingue en Abitibi-Témiscamingue. Avec sa casquette vissée sur la tête et son chandail de sport à rayures, Tara Dantouze, 32 ans, a davantage l'allure d'une athlète de haut niveau que d'une cueilleuse de petites baies et de champignons sauvages. Dans la réserve de la Première Nation de Témiscamingue, à une heure de route de Rouyn-Noranda, où elle a élu domicile il y a 10 ans, l'ex-hockeyeuse originaire du Manitoba est reconnue pour allier modernité et tradition. The Wild Basket, qu'elle a cofondé en 2016 et qu'elle dirige avec sa conjointe, Lindsay McLaren-Paulson, se spécialise dans la récolte des chanterelles, des champignons homards, des pleurotes, du thé du Labrador et d'autres trésors qui poussent dans la réserve. Ses clients? Quelques chefs, bien sûr, et surtout les 500 habitants de Témiscamingue qui s'en délectent. Mais il y a plus. Pour ces derniers, c'est aussi une chance en or de renouer avec les aliments qu'affectionnaient leurs ancêtres et une occasion de protéger le territoire des coupes de bois. Les entreprises d'exploitation forestière, grâce aux permis accordés par le gouvernement, ont décimé nos forêts pour bâtir le Canada. Il est temps d'en reprendre le contrôle pour assurer notre survie, dit Tara. La gestionnaire caresse maintenant l'idée de vendre ses produits en ligne. Cette expansion dépendra de ce que veut bien lui fournir Dame Nature. On ramasse le tiers de ce qui est mûr pour assurer la pérennité des variétés, car si on cueille trop, l'espèce risque de moins repousser l'année suivante, explique Tara, qui est aussi responsable des ressources naturelles de la réserve. À ce titre, elle agit comme consultante en suivant de près l'approche du gouvernement quant à l'attribution des permis de coupe. Tara se fait aussi passeuse de savoir. Avec l'aide du géomaticien Danny Bisson, qui répertorie les ressources des territoires de Première Nation depuis plus de 20 ans, elle et son équipe de cueilleurs s'assurent aussi de cartographier chacune des zones de récolte. Ces données constituent un héritage pour les générations qui suivront. Elles pourront les utiliser à leur tour, tout en protégeant la généreuse forêt. 11 et 12. Maria José et Zoya de Frias, restauratrice. les restauratrices Maria José et Zoya de Frias mettent la gastronomie africaine à la portée des gens d'ici avec un esprit de convivialité inégalable. Le duo est bien rodé. Maria José de Frias, la mère, s'active au fourneau. Zoya, sa fille, est aux petits soins avec les clients attablés dans la salle à manger. Plus qu'un air de famille, mère et fille partagent l'art de recevoir au Virunga, le restaurant qu'elles ont ouvert en 2016 au cœur du plateau Mont-Royal, à Montréal. On y déguste une cuisine gastronomique panafricaine inspirée des mets traditionnels de leur pays d'origine, la République démocratique du Congo, de même que des États qui jouxtent le parc national des Virunga, soit l'Ouganda et le Rwanda. Je voulais faire découvrir les saveurs qui ont bercé mon enfance et montrer que la cuisine africaine est raffinée, dit Maria José. C'est au tournant des années 2000 que cette dernière a fui l'insécurité de son pays natal avec ses deux enfants. Direction la Belgique, où Maria José fait carrière comme styliste de mode pendant 15 ans. Puis, en 2015, mère et fille mettent le cap sur Montréal pour un nouveau départ. La quarantaine bien entamée, Maria José suit une formation en cuisine au Collège La Salle, ce qui lui permet de perfectionner sa technique. Sa cadette, Zoya, quant à elle, termine sans grand enthousiasme des études en mathématiques et informatique quand sa mère lui propose d'ouvrir avec elle un restaurant de haute cuisine africaine. Sans hésiter, elle plonge dans l'aventure. Au début, ça a été difficile de faire accepter notre concept, car les gens s'attendaient à manger des grillades ou de la friture, cliché des mets africains. On s'est accroché pour leur faire goûter des choses qu'ils ne connaissaient pas, se souvient la jeune femme de 31 ans. L'audace a été récompensée. Les clients ont fini par être séduits par la richesse des saveurs et par les ingrédients frais provenant de petits producteurs québécois. L'alimentation locale et durable est à la mode, mais d'où je viens, il va de soi de se fournir auprès des éleveurs et maraîchers du coin et de rentabiliser chaque produit au maximum. « J'ai toujours fonctionné ainsi », explique Maria José. Mère et fille espèrent continuer de faire découvrir encore longtemps la gastronomie dont elles sont si fières. Les soirs où le Virunga affiche complet, il n'est pas rare de voir le duo de restauratrices s'échanger le regard complice de celles qui ont accompli leur mission. C'était « Les femmes qui nourrissent le Québec », un texte de Marie Bernier et Chloé Machio, paru le 7 mars 2023 dans le magazine Châtelaine. Quand meurt-on? Un texte de Joël Leblanc et Mélissa Guillemette, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Un mort dont le cœur bat, oui, cela existe, au grand désespoir de plusieurs familles. Au Civic Hospital de Brampton, en Ontario, Takisha McKitty, jeune mère de 27 ans, est allongée sur un lit. Au moment d'écrire ces lignes, une machine souffle de l'air dans ses poumons et un mince tube passe par sa narine pour acheminer des nutriments jusqu'à son estomac. Une fois à l'urgence, le 14 septembre 2017, à la suite d'une surdose de drogue, les médecins ont tenté de la sauver, mais ont finalement dû déclarer sa mort cérébrale. Depuis, son cœur bat toujours, mais il ne se passe rien dans sa tête. Ses parents refusent toutefois qu'elle soit débranchée, disant qu'ils la voient parfois bouger. Ils demandent même une révocation du certificat de décès. L'affaire est devant les tribunaux. « Je ne crois pas que la mort cérébrale soit la vraie mort. C'est contraire à la foi de ma famille », a déclaré en cour son père, fervent chrétien. Deux définitions de la mort s'affrontent, l'une biomédicale, l'autre religieuse. Takisha. Est-elle vivante? Est-elle morte? Depuis toujours, les humains ont confirmé la mort de leurs proches par les seuls signes facilement perceptibles de l'extérieur, l'arrêt du cœur et celui de la respiration. Mais c'était sans compter les progrès de la science. Au milieu du 20e siècle, se répandit une nouvelle technologie dans les hôpitaux, le respirateur artificiel. Et avec lui, émergea toute une classe de gens au corps chaud et dont le sang circule, pouvant même combattre des infections ou mener à terme une grossesse, mais dépourvus de toute fonction cérébrale, expose Leslie Wettstein, philosophe s'intéressant aux définitions de la mort à la Walsh University en Ohio. Le respirateur permet en effet de maintenir l'oxygénation et donc les battements cardiaques et toutes les fonctions biologiques, depuis la digestion jusqu'à la pousse des ongles. Des mouvements des membres peuvent même survenir, attribuables à une activité nerveuse résiduelle dans la moelle épinière. Soudainement, la mort n'était plus la mort telle qu'on la connaissait. Voilà pourquoi, en mai 1968, un comité d'experts de la Harvard Medical School a jeté les bases du concept de mort cérébrale. Le cerveau peut être mort même si le cœur bat encore, à condition de respecter 5 critères. L'absence d'activité électrique dans le cerveau, de réactivité à l'examen neurologique, de réponse à la douleur, de réflexe des nerfs crâniens et de respiration spontanée. Une définition qui a eu le mérite de faciliter la transplantation d'organes, mais qui crée de la confusion chez ceux qui restent. C'est vrai que ce n'est pas facile d'accepter qu'un proche soit mort tandis que son cœur bat. C'est contre-intuitif, admet Éric Racine, directeur de l'unité de recherche en neuroéthique à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Au Canada, cela représente environ 1% des cas de décès. Vide juridique. Si la plupart des pays développés utilisent la définition de mort cérébrale pour mettre un terme à la vie des patients sous ventilateur mécanique, certains s'attachent encore au bon vieil arrêt cardiaque. L'État du New Jersey, aux États-Unis, par exemple, applique la définition cérébrale, mais des individus peuvent légalement la rejeter pour motif religieux. On attend alors que le cœur lâche pour débrancher le patient. Quant à lui, le Japon est le seul pays qui autorise ses citoyens à choisir à l'avance la définition de leur mort, cardiaque ou cérébrale. On peut donc être déclaré mort quelque part alors qu'on serait encore vivant ailleurs. Et au Canada? En gros, vous êtes officiellement mort quand le médecin déclare que vous l'êtes. Nous n'avons pas de définition légale de la mort, expose Éric Racine. L'État s'en remet au médecin, mais ceux-ci appliquent bien sûr la définition cérébrale. Seul le Manitoba s'est doté depuis 1975 d'une définition basée sur la mort du cerveau. Ailleurs au pays, le vide juridique ouvre la porte à des demandes d'accommodement religieux, comme c'est le cas pour Takisha Mekiti. Vous écoutez « Quand meurt-on ?», un texte de Joël Leblanc et Mélissa Guilmiette, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Dans des circonstances naturelles, c'est-à-dire sans respirateur, l'arrêt cardiaque et la mort cérébrale se suivent de très près. Lorsqu'un cœur cesse de battre, la circulation s'arrête et le sang oxygéné cesse d'être acheminé au cerveau. Quelques secondes après cette coupure d'oxygène, c'est l'évanouissement. Et après quelques minutes, c'est l'extinction du cerveau due à la mort des cellules nerveuses qui le constituent. À l'inverse, si le cerveau est détruit en premier, à cause d'un accident vasculaire par exemple, la respiration s'arrête, faute de signal nerveux. Le cœur, qui est pour sa part autonome, continue de battre un moment jusqu'à ce que le manque d'oxygène ait raison de lui et que l'arrêt cardiaque survienne. Pour les médecins, la mort est la cessation irréversible de toutes les activités du cerveau, précise Éric Racine. Mais pour le grand public, l'appellation « mort cérébrale » laisse parfois croire que tout n'est pas fini, que cette mort n'est pas finale. Même les médias s'y trompent, a observé Éric Racine dans une étude publiée en 2014 recensant 940 articles de journaux américains et canadiens de 2005 à 2009. Dans 39% des articles, le concept de mort cérébrale était mal compris par les journalistes eux-mêmes et mal expliqué, quand il était expliqué. Plusieurs articles laissaient entendre à tort qu'une personne pouvait avoir deux morts. Une première mort cérébrale, puis une deuxième, lors du débranchement des appareils qui maintiennent les fonctions vitales. Or, pour dire les choses crûment, un corps dont le cerveau est mort n'est pas très différent d'un corps sans tête dont on maintiendrait artificiellement les fonctions vitales. Mais comment s'assurer de l'absence d'activité dans un cerveau et surtout de l'irréversibilité de cette situation? En se fiant au fameux tracé plat de l'électroencéphalogramme, EEG, que l'on voit dans les films? Pas vraiment. Un trait plat sur l'écran ne signifie pas nécessairement que le cerveau est mort, explique Florin Amzika, directeur du laboratoire de neurophysiologie du sommeil et des états de conscience altérés à l'Université de Montréal. Tout comme un ordinateur éteint n'est pas brisé pour autant, un EEG plat peut être le signe d'un coma très profond, mais pas nécessairement irréversible. Le coma est le symptôme d'un dysfonctionnement sévère du cerveau. Mais il peut être provoqué par des drogues et une fois leur effet dissipé, le cerveau redémarre. Un EEG seul, s'il peut détecter la vie, ne peut donc pas confirmer la mort. Alors, comment peut-on déclarer un cerveau hors d'usage? En observant des signes cliniques. On teste, entre autres, le réflexe respiratoire en stoppant momentanément le respirateur. Puis, on tire légèrement sur le tube d'alimentation qui va dans l'estomac pour voir si le réflexe de déglutition est présent et on envoie un faisceau lumineux dans l'œil pour vérifier si l'iris se contracte. Plusieurs autres tests doivent aussi être menés, idéalement deux fois plutôt qu'une, et par des médecins différents, avant de parvenir à un diagnostic de décès neurologique. Toutes ces réactions sont des réflexes basiques, note Florin Amzika. S'ils ne fonctionnent pas, c'est que le cerveau profond est affecté. On ne donne pas cher, alors, des fonctions complexes du cerveau qui sont les premières à être détruites en cas d'hypoxie. Le tableau a beau être clair pour les médecins, il donne tout de même matière à réflexion aux éthiciens et philosophes qui se questionnent sans relâche depuis la publication du rapport de Harvard. Ce qui nous importe tant avec le cerveau et le fait qu'il supporte la conscience, note la philosophe Leslie Wetstein, au-delà du cerveau et des organes biologiques, la mort devrait plutôt être définie comme la perte irréversible de cet état de conscience. Dans son lit, Takisha Mekiti l'a perdu depuis plusieurs mois cet état de conscience, quoi qu'en disent ses parents. La judiciarisation de son cas et de quelques autres fera peut-être bouger des choses au pays et forcer l'adoption d'une définition légale de la mort. Ou peut-être suffira-t-elle à rappeler l'absence d'un système d'accréditation des médecins chargés de prononcer le diagnostic ultime, ce que déplorent certains d'entre eux. Rien n'est simple dans la vie, pas même la fin. L'imagerie pour diagnostiquer la mort cérébrale. Pourrait-on diagnostiquer le décès neurologique à l'aide de l'imagerie médicale plutôt qu'avec l'examen physique pour convaincre les familles que le cerveau de leurs proches est bien éteint? On n'en est pas là, dit l'intensiviste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Michael Chassé. L'examen clinique est 100% fiable quand il est bien fait. Mais plus les années passent, et plus il y a des cas qui empêchent de compléter l'examen clinique ou le faussent carrément. Par exemple, le fentanyl imite parfaitement la mort cérébrale, souligne le médecin. Le docteur Chassé dirige justement un essai clinique national pour comparer l'efficacité d'un test d'imagerie, la tomodensitométrie perfusionnelle et celle de l'examen clinique. Il faut dire que les médecins utilisent déjà des techniques d'imagerie quand ils ne peuvent pas compléter l'examen traditionnel. Comment tester les réflexes du visage d'un patient défiguré? Mais elles ne sont pas des plus efficaces. Ces techniques, l'angiographie et la scintigraphie cérébrale, vérifient si le sang se rend à la tête en prenant une seule photo. Mais elles ne montrent pas si le sang se rend vraiment aux cellules. On garde donc peut-être des patients en vie alors qu'ils sont en état de mort cérébrale. Notre test suit plutôt les globules rouges sur plusieurs minutes pour voir s'ils se rendent aux cellules. Le mieux serait de faire des tests d'imagerie fonctionnelle pour vérifier si les cellules sont actives, mais cela demanderait trop de ressources. Le test à l'étude pourrait aussi être utilisé par les médecins qui ne sont pas suffisamment confiants pour poser un diagnostic de mort cérébrale à partir de l'examen clinique, faute d'expérience en la matière. Dans les grands hôpitaux, on a environ 30 à 40 cas de mort cérébrale par année, mais à Shibugamo, par exemple, il peut n'y en avoir qu'un seul. C'était « Quand meurt-on ?», un texte de Joël Leblanc et Mélissa Guillemette, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.